à tous, c'est Maxence Rigottier de blogcoursapi.com. Aujourd'hui, je suis avec David Badaré qui est diététicien du sport et journaliste dans plusieurs magazines comme le magazine Running Attitude. Donc, au cours de cette interview, je vais poser pas mal de questions à David concernant la nutrition du sportif. Donc, tout d'abord, je vais laisser David se présenter. Ensuite, je poserai toutes mes questions au cours de l'interview. Salut David.
Bonjour Maxence.
Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs et les lecteurs du blog?
Donc tout d'abord, je te remercie d'avoir procédé à cette interview. Alors moi, je suis diététicien nutritionniste et cofondateur de la structure Nutéo Consult. Alors l'ambition de Nutéo Consult, en fait, c'est de regrouper à la fois un diététicien, donc un spécialiste de la nutrition, et puis des préparateurs physiques, des coachs sportifs, afin d'englober en fait la préparation du sportif, à la fois la diététique et puis la préparation physique. Et moi-même, je pratique aussi du sport puisque je fais de la course à pied, cyclisme, triathlon en compétition.
Donc tu fais des triathlons Ironman ou course à distance?
Non, modestement, je fais du courte distance, voire du sprint parfois. C'est vrai qu'il faut du temps pour s'entraîner sur des préparations du type Ironman. Et je manque de temps.
D'accord. Donc là, puisque tu fais pas mal d'entraînements comme la natation, le vélo, la course à pied, quels conseils tu pourrais nous donner à toutes les personnes qui sont un petit peu comme tout le monde, hein, comme toi, comme moi, n'avons pas trop de temps pour s'entraîner et qui souhaitent courir un petit peu après manger? Quels conseils pour courir après manger?
En fait, il y a deux écueils qui peuvent guetter le coureur lorsqu'il se décide à courir après manger. C'est un, les problèmes digestifs, ça semble évident. Et puis deux, ça peut être l'hypoglycémie à la fois réactionnelle ou la glucopénie. Donc j'expliquerai un petit peu la différence entre les deux. Alors concernant les problèmes digestifs, en fait, la première mesure, je dirais, de bon sens, c'est de laisser un laps de temps entre la fin du repas et le début de la mise en activité. Cependant, on remarque, et j'ai remarqué aussi, que l'organisme pouvait s'habituer à diminuer le laps de temps entre la fin du repas et le début de la mise en activité. Sur des sportifs non entraînés ou débutants, il faut laisser 2 heures, voire 3 heures après un repas. Sur des sportifs entraînés ou sur des sportifs qui ont l'habitude de s'alimenter, par exemple, pendant leur compétition, par exemple sur l'ultra trail ou des entraînements super longs, on peut remarquer qu'ils sont capables de courir assez rapidement, 1 heure quasiment après le repas. Bien entendu, ils sélectionnent leurs aliments de manière à ce que ce soit des aliments assez digestes, mais ils sont capables de courir assez rapidement avec le ventre lesté. Donc ça, c'est intéressant et ça fait partie de la préparation nutritionnelle. Deuxièmement, il faut éviter les aliments qui ont le plus tendance à stagner dans le système digestif. C'est les aliments qui contiennent des fibres, voilà, les céréales complètes, les légumes secs, les légumes en général, hein, les fruits à fibres. Voilà, tous ces aliments qui contiennent beaucoup de fibres, ne se digèrent pas d'ailleurs, puisqu'elles ne font que passer en fait dans notre corps et elles sont éliminées par les voies courantes. Mais donc elles ont tendance à rester, hein, donc ça crée des lourdeurs, surtout quand on court après. Et puis les sécrétions gastriques qui sont quand même importantes pour essayer de l'organisme essaye de digérer ces fibres, mais il n'y parvient pas, ça crée aussi de l'acidité. Ensuite, il y a tout ce qui est viande tendineuse, viande kératineuse, les viandes qui contiennent, qui sont très chargées en protéines. Effectivement, les protéines sont assez longues à digérer, hein. Il faut entre 4 et 5 heures, donc on va éviter effectivement de manger trop de viande, et puis notamment les viandes les plus riches en résidus, donc les viandes à bourguignon, à pot-au-feu. Ensuite, le troisième type d'aliments auxquels on va faire attention, c'est les aliments qui stimulent le plus les sécrétions biliaires, puisqu'ils peuvent créer des remontées acides. On a tous essayé de courir après avoir mangé un plat ou avoir eu un déjeuner un peu riche. Les viandes grasses, les sauces, les fritures, les graisses cuites, les viennoiseries, tout ça c'est très riche en graisse et donc ça oblige l'organisme à augmenter ses sécrétions biliaires pour digérer les graisses et ça crée des remontées qui peuvent être pénalisantes lorsqu'on veut s'entraîner. Ensuite, dernier type de danger, c'est les aliments qui sont sujets à fermentation. Donc les céréales en font partie, mais je pense surtout en fait au lactose, hein, le sucre du lait. Donc, comme tous
D'accord.
les sucres, c'est un sucre qui fermente. Et aussi, la digestion n'est pas terminée, ou par exemple, comme pour le pain ou les pommes de terre, s'il y a eu un délai trop court, les aliments qui n'ont pas été digérés, ils fermentent avec l'augmentation de la température du corps, et puis les ballonnements, et ça crée des lourdeurs digestives, des problèmes digestifs. Alors, concernant la glycopénie et puis l'hypoglycémie, alors l'hypoglycémie, ça peut survenir lorsqu'on a eu un repas vraiment très très sucré, et puis qu'on a un démarrage un peu rapide. En fait,
On peut avoir des vertiges.
alors ça concerne effectivement certaines personnes qui sécrètent beaucoup d'insuline. C'est-à-dire qu'on a d'abord une hyperglycémie, une augmentation forte du taux de sucre dans le sang, suivie quelques temps après en fait d'une hypoglycémie, puisque l'organisme réagit en sécrétant beaucoup d'insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais il en sécrète trop. Et donc au moment où on démarre l'activité, en fait, on a une grosse demande, un gros besoin en sucre, mais il n'y a plus suffisamment de sucre dans le sang. Donc on fait une hypoglycémie réactionnelle. Bon, ça c'est assez rare quand même. Alors après, la glycopénie, c'est différent, c'est quand vraiment les cellules musculaires ont plus du tout de réserve énergétique, hein, et ont plus de glucose. Exemple, voilà, vous avez un petit déjeuner sans glucides, un déjeuner avec légumes, poissons, sans glucides non plus, et vous allez vous entraîner, vous faites une séance importante à 19 h, sans avoir mangé aucun sucre, aucun sucre lent. Ça peut passer une journée ou deux, mais la troisième journée, vous allez effectivement avoir un déficit d'énergie, quoi. Voilà, donc ça c'est la glucopénie. Je dirais en résumé, il faut avoir une consommation quand même de sucre lent avant l'effort, ça me semble logique.
Et grosso modo, c'est généralement dans les 3 heures suivant le repas que c'est déconseillé, de courir, ou un peu plus.
Voilà, on considère en fait qu'un repas va être digéré en gros aux alentours de 3 h. Mais on est vraiment tous différents. Il y a des personnes, plus on est mince effectivement, et plus la digestion peut être lente. Donc après, ça dépend des gens, mais on va dire qu'en moyenne c'est 3 h. Et après, ça dépend du type d'aliment. Si vous avez des aliments à index glycémique bas, l'absorption est plus lente. Si vous avez des aliments à index glycémique élevé, l'absorption est plus rapide. Alors, les aliments à index glycémique bas, justement, c'est tout ce qui est féculents, céréales complètes, le pain complet, voilà, des choses comme ça. Et les aliments à index glycémique élevé, ça va être le pain d'épices, ça va être la confiture, ça va être la biscotte, des choses comme ça, qui peuvent être digérées assez rapidement. Et donc, qui peuvent être constituées une collation adaptée avant l'effort, 1 heure avant l'effort, par exemple. Ça sera digéré assez rapidement, il n'y aura pas de lourdeur digestive.
D'accord. Et pour rebondir sur tes propos, tu es également donc consultant chez NeoConsult. Quel plan nutritionnel adopter la dernière semaine avant de courir soit un 10 km, soit un semi-marathon ou un marathon?
Alors là, c'est effectivement ces trois types d'efforts différents. Le 10 km, c'est un effort de moins d'1 heure. Donc là, ça nécessite pas forcément d'adopter une stratégie particulière la dernière semaine, si ce n'est d'avoir je dirais un poids optimisé, hein, optimiser son taux de graisse. Donc on va diminuer les sucres rapides et les graisses saturées, hein, c'est ce qui encourage le plus la formation de graisse. Donc en diminuant déjà ces deux types d'aliments dans sa nourriture, ça permet d'optimiser le taux de graisse. Ensuite, on va veiller le dernier jour, la veille, le samedi, d'avoir au moins un repas avec des féculents, une quantité normale, hein. Voilà, une assiette de féculents, hein, histoire de recharger un petit peu les batteries. Et puis le petit déjeuner, par contre, il va être important, là. Il faut qu'il soit quand même relativement un mélange de sucre rapide et de sucre lent, hein, pour pouvoir fournir un effort à la fois bref et pour les meilleurs, ça va être 30 minutes à 35 minutes. Donc voilà, il faut vraiment que les sucres soient disponibles immédiatement avec un confort digestif total, quoi. La moindre moins problème digestif, c'est des précieuses secondes qui sont perdues, quoi. Alors pour le semi-marathon, par contre, là, c'est un effort de plus d'1 heure. Ça peut aller jusqu'à 2 heures. En moyenne, on va dire 1 h 30. Là, on va dire qu'il faut quand même veiller à avoir quand même une petite charge glucidique, hein. On va essayer de partir avec les muscles rempli de carburant, c'est-à-dire de glycogène. Donc, c'est le glycogène, c'est les glucides, c'est les sucres qui sont contenus dans le muscle. Alors, donc là, on va prévoir peut-être 2 à 3 jours avant, peut-être le samedi et le vendredi, veiller à avoir au moins à chaque repas une petite portion de féculents pour être sûr d'avoir une charge glucidique adaptée. Et puis aussi également la différence du 10 km, on va adopter une stratégie pendant la course. Il y aura peut-être une prise d'un gel ou prise d'une boisson, si c'est possible, durant l'épreuve. Voilà. Donc là, la stratégie, elle s'applique, elle concerne à la fois l'avant-épreuve et l'épreuve en elle-même. Et puis pour le marathon, là, on peut appliquer effectivement une vraie stratégie de charge glucidique. Alors, la charge glucidique, on peut la faire soit le mercredi et jeudi, c'est-à-dire que là, on modifie son alimentation de manière à introduire de grosses quantités de féculents pour augmenter, pour avoir un stock de glycogène qui soit au maximum. Et puis, à partir du vendredi, samedi, on mange normalement. Ça, c'est pour ne pas avoir, éviter les inconforts digestifs, pour éviter de manger trop à proximité de l'épreuve, ce qui créerait une dépense en fait énergétique liée à la digestion et puis une fatigue inutile. Voilà. Donc la surcharge se fait le mercredi ou le jeudi. Et puis ensuite, donc le matin de la course également, le petit déjeuner est important. Et puis la stratégie de course aussi, là l'alimentation effectivement est fondamentale. L'alimentation pendant la course, la prise régulière de boissons, l'hydratation, voilà, tout ça c'est important.
Donc ça, c'est un aperçu des trois courses les plus importantes que font généralement les coureurs, soit du 10 km, semi-marathon ou marathon. Et pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, comment perdre du poids grâce à la course à pied? Quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui souhaitent maigrir en courant?
Ouais. Alors la première mesure à mettre en place, c'est de rééquilibrer son alimentation, puisque ça sert à rien d'accumuler les efforts, de multiplier les sorties, en se disant qu'en augmentant les sorties, on va brûler plus. Ça sert à rien si derrière on n'a pas une alimentation qui est un minimum cadré. Voilà. Donc pour les personnes, donc les athlètes, les sportifs qui présentent un petit excédent de tissu graisseux, la priorité, c'est de rééquilibrer l'alimentation. Et on obtiendra naturellement une diminution du poids, ça c'est évident, et une diminution du poids grâce à une diminution du taux de graisse, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de baisser le taux de graisse et pas de toucher la masse musculaire, la masse maigre. Voilà. Alors ensuite, pour les athlètes qui sont déjà relativement secs, qui ont déjà un taux de graisse relativement optimisé, on peut s'orienter vers la course à pied à jeun. À l'intégrer une ou deux fois dans le mois. Effectivement, des études ont prouvé que c'était plus efficace lorsqu'on avait un taux de graisse relativement bas, entre 10 et 12 %. Hein. C'est relativement efficace puisqu'on fait des catécholamines, qui sont en fait des hormones qui ont la capacité hein, de faire sortir en fait la graisse des tissus et des cellules dans lesquelles ils sont stockés, notamment les adipocytes. Voilà, un entraînement d'un jeun donc est bien adapté pour les personnes déjà plutôt minces, déjà plutôt sèches. Ensuite, après, on peut pratiquer un régime hypoglucidique, c'est-à-dire diminuer en sucre lent et en sucre rapide, de manière à obliger l'organisme à fabriquer son propre sucre à partir d'autres substrats énergétiques. Alors, lesquels? Les graisses de réserve et puis les acides aminés, hein, notamment les acides aminés ramifiés qu'on trouve dans le muscle. Voilà, donc ça c'est une capacité qu'a l'organisme, qui met en jeu notamment lors des jeûnes longs, et également qui met en jeu lors des entraînements ou lors des compétitions de très longue durée. Hein. Sur les sorties supérieures à 3 heures, 3-4 heures, il utilise en fait, il arrive à recycler ses graisses et ses acides aminés ramifiés hein, pour créer de l'énergie, pour créer du glucose, qui va ensuite être utilisé comme source énergétique. Voilà. Donc le sportif qui est capable de bien travailler cette filière-là, il a un double avantage, c'est qu'il va augmenter son rendement en fait, puisqu'il va avoir à sa disposition trois types de ressources, les glucides, les lipides et les protéines. Et ça va lui permettre d'épargner son stock de glycogène. Et puis ensuite, il va perdre du poids, puisqu'en utilisant ses ressources en graisse, il optimise son taux de graisse. Voilà, donc ça c'est un axe important de la préparation nutritionnelle. Donc pour sécuriser par contre ce type de programme, on encourage une supplémentation en BCAA ou en protéines, puisque effectivement c'est des acides aminés qui souffrent beaucoup de ce type de régime hypoglycémique. Et puis
D'accord.
on encouragera aussi la prise aussi d'oméga-3 pour éviter effectivement aussi que ces graisses, qui sont des graisses fondamentales, soient aussi trop utilisées comme source énergétique, alors qu'elles n'ont pas cette vocation-là, normalement. Hein. Elles ont une vocation plus structurelle, fonctionnelle, notamment les membranes cellulaires, les hormones. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit plutôt les graisses saturées qui soient utilisées comme source énergétique, et non pas les bonnes graisses, les oméga-3.
Exactement. Également, donc en tant que consultant, tu rencontres beaucoup de sportifs. Quelles sont les trois pires erreurs que tu rencontres chez tes patients, chez les sportifs, où tu te dis encore, waouh, cette erreur revient une nouvelle fois?
En fait, la première, vraiment l'erreur récurrente, c'est celle qui consiste à bannir les féculents, le riz, les pâtes, se dire que voilà, ça fait
Manger
grossir.
que du pain, alors.
Et voilà, et contrario, d'avoir des consommations de pain qui sont énormes. En fait, c'est la même chose, pain féculent, je dirais c'est la même chose, sauf que dans le pain, il n'y a pas l'eau. Hein. Dans le pain, il y a un pourcentage d'eau qui est de 30%, alors que dans les féculents, le pourcentage d'eau est de 70%. Donc en fait, c'est comme si vous mangez en fait des féculents concentrés. Voilà. Voilà. Donc remplacer l'un par l'autre, c'est pas une bonne solution. Surtout que le pain a un index glycémique qui est plus élevé que les féculents. Un index glycémique, c'est-à-dire qu'il va être absorbé plus rapidement, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sécrétion d'insuline plus importante et donc un cercle vicieux dans lequel on est, où on a plus faim, ou voilà, où quand on mange, on sécrète plus d'insuline et on fabrique plus de graisse. Voilà. Donc faut pas, faut voilà, bannir les féculents, je pense que c'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, sur la préparation nutritionnelle, les athlètes avec qui je travaille, qui réintroduisent des féculents à la place du pain, le voient bien puisqu'ils optimisent leur taux de graisse et ils améliorent leur performance parce qu'ils ont de meilleures sensations durant leur entraînement et durant leur compétition. Alors,
Donc ça, c'était
ensuite,
la première erreur, c'est que les
ouais.
sportifs vont bannir les féculents et manger trop de pain.
On bannit, voilà, les bannir les féculents, mais on se dirigeait par plus de pain, plus de voilà, plus de biscotteries, plus de céréales raffinées, voilà, des choses comme ça.
D'accord.
De toute
Et
façon, ils
là.
compensent. Voilà. La deuxième, c'est de faire un dîner trop copieux. Alors souvent, le petit déjeuner va être assez rapide parce que pourquoi justement? Pourquoi il va être rapide? Pourquoi il va être escamoté? Parce que ça va être, on va comprendre. Parce que le dîner, lui, a été copieux. Donc du coup, il a été très copieux le dîner. Donc le matin, on a moins faim. On est dans ce cercle-là. Le midi, on déjeune un peu sur le pouce parce que on est un peu pressé et puis parce qu'on n'a pas envie d'être trop lourd pendant la journée. Donc du coup, on a un petit déjeuner escamoté, voire sauté. Un déjeuner très rapide. On a du stress professionnel dans la journée, voire un entraînement en fin de journée. On arrive le soir, on est affamé. Et là, on recharge
Là, on
énormément.
mange énormément.
On mange énormément. Voilà, beaucoup de petits. Alors. Pour ceux qui mangent pas de féculents, on va mettre sur un peu de gruyère sur les légumes ou voilà. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive, on va se prendre un petit dessert gourmand, une petite crème dessert. On va trouver de toute façon d'autres sources de sucre. On va compenser par d'autres sources de sucre, un petit chocolat, un petit biscuit chocolaté. C'est la récompense le soir en fait. On déstresse, on décompresse et les repas ils sont à rallonge et ils sont excessifs. Et donc on a du mal à dormir et le lendemain on se réveille, on n'a pas très faim finalement parce qu'on a voilà, parce qu'on a mangé trop le soir et ainsi de suite. Et on est dans un cercle vicieux. Donc il faut réintroduire un vrai petit déjeuner. Le déjeuner, il faut vraiment qu'il y ait les aliments les plus importants. Le jour où il n'y a pas d'entraînement en fin d'après-midi, on n'est pas obligé d'avoir des féculents, mais les jours où il y a un entraînement, il vaut mieux quand même en avoir. Il faut pas oublier les protéines, un peu de légumes, un fruit, un produit laitier. Voilà. Puis le soir, par contre, effectivement, on est à proximité du coucher, donc la dépense énergétique, elle est derrière nous, elle n'est pas devant nous. Hein. Là, le soir, on s'apprête à dormir, donc il y a plus de la dépense énergétique va être très faible. Et donc si on mange trop, on va fabriquer de la graisse, hein, puisque c'est tout ce qui va ne pas être consommé et stocké. Ça fait partie du rééquilibrage alimentaire. Il faut réorganiser son alimentation de manière à avoir des repas équilibrés.
D'accord.
Alors la troisième erreur, c'est de consommer beaucoup de boissons excitantes, donc notamment le café.
D'accord, ça c'est vrai, beaucoup de coureurs, beaucoup de personnes boivent du café.
Voilà, les sportifs, souvent, c'est des personnes qui sont très, très actives, voire parfois suractives, voilà. Donc c'est des personnes qui sont très speed et qui ont besoin de café pour tenir le coup. Mais ils oublient de boire, souvent, et ils préfèrent prendre du café que boire. Le café, c'est un effet diurétique, donc ça déshydrate. On entre dans un cercle vicieux où effectivement on se déshydrate petit à petit et donc là ça crée des problèmes comme les tendinites, des choses comme ça. Voilà. Et puis ça permet pas aussi un processus de nettoyage de l'organisme qui soit vraiment idéal, puisqu'on sait que l'eau permet effectivement de filtrer les déchets à travers le rein, voilà. Et quand on n'est pas suffisamment hydraté, les déchets ont tendance à stagner, s'accumulent, et c'est ça qui peut sur les parties terminales comme le tendon d'Achille, c'est là qui là où on a un peu des cul-de-sac, c'est là où les déchets peuvent s'accumuler et puis abîmer les fibres, les tendons. Voilà.
D'accord. Donc pour récapituler, un, c'est principalement donc bannir un petit peu les féculents. Deux, c'est de faire un repas trop copieux le soir. Et trois, c'est de boire des boissons trop énergétiques, etc.
Voilà, des boissons même pas forcément énergétiques, hein, excitantes comme le café, le thé,
Excitante, ouais,
mais
pardon.
donc diurétiques, quoi.
Ok. Et donc en tant que nutritionniste du sport, qu'est-ce que tu penses des gels, des produits énergétiques? Est-ce que c'est juste du marketing ou il y a une réelle utilité pour le coureur? Quelle est ton
Bon,
opinion sur ce sujet?
alors, moi, effectivement, je suis professionnel de la diététique, mais je suis également sur le terrain, puisque je pratique aussi le sport et puis je côtoie des sportifs. Et à travers ces trois effectivement ces trois points de vue, je peux dire aujourd'hui qu'ils ont un réel intérêt. La preuve, c'est que les coureurs qui commencent à tester un petit peu dans leur pratique, soit des boissons énergétiques, des boissons isotoniques, ou des gels, une fois qu'ils ont trouvé le gel qui leur convient, ou des barres, des choses comme ça, des boissons de récupération, ils reviennent très rarement en arrière. Donc voilà. Donc il y a un réel intérêt. Il y a aujourd'hui une disponibilité sur le marché de produits qui est très large, peut correspondre à tout le monde, à la fois sur le plan qualitatif, si on veut des produits naturels, des produits bio, si on veut des produits qui aient du goût, pas de goût, qui aient une texture particulière, qui aient une concentration particulière. Voilà, il y a du choix. Il faut respecter les précautions qui figurent sur l'emballage, les précautions d'usage. Par exemple, lorsqu'on consomme un gel énergétique, il faut bien entendu boire, puisque le gel, en fait, c'est comme une boisson sans l'eau. Donc, si on a le sucre, la concentration de sucre d'une boisson énergétique, mais sans l'eau. Donc, ça peut créer une forte déshydratation. Donc, il faut faire attention sur certains produits. Mais sur les boissons isotoniques, par exemple, c'est même aujourd'hui, les recommandations de l'AFSA font figurer effectivement un intérêt vraiment important sur les boissons isotoniques pour éviter les problèmes de déshydratation.
D'accord. Et pour finir sur une dernière question au cours de cette interview, quoi manger après une compétition? Un 10 km, semi-marathon, marathon? Quels sont tes conseils par rapport à l'alimentation post-course?
Alors, il faut agir dans le sens du métabolisme. Donc,
D'accord.
que ce soit un 10 km, un semi-marathon ou un marathon, l'alimentation immédiate, elle est la même. C'est-à-dire que lorsqu'on termine le 10 km, l'organisme, il est en hypercatabolisme, il brûle tout le carburant. Donc, il est en train de brûler du sucre, il est en train de brûler éventuellement des graisses, il est en train de brûler éventuellement des acides aminés. Donc, essentiellement, ce qu'il faut lui apporter, c'est des sucres rapides, hein. Là, on va pas apporter des sucres lents parce que le temps que ce soit digéré, il aura brûlé ses propres réserves. On va éviter qu'il continue à brûler ses réserves, puisque ses réserves, elles sont importantes pour nous, pour la récupération. Donc, on va lui apporter ce dont il a besoin sur l'instant, c'est-à-dire des sucres rapides. On va lui apporter éventuellement des acides aminés, donc les trois acides aminés, les acides aminés ramifiés dont on parlait tout à l'heure, qui sont brûlés lors de l'activité physique, donc les BCAA. On va lui
D'accord.
apporter aussi, puisque toute chimie, en fait, nécessite de l'eau. Toute chimie nécessite de l'eau, donc on va lui apporter de l'eau, puisqu'il y a une déshydratation aussi suite à une activité physique. On va lui apporter des minéraux, puisque toute chimie nécessite aussi des catalyseurs, donc notamment les minéraux, notamment les vitamines importantes, vitamines du groupe B. Voilà. Donc je dirais l'idéal et le plus simple, en fait, c'est de continuer à boire sa boisson de course pendant les 30 minutes qui suivent. Consommer s'il y a pain d'épices, des fruits secs, des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, 1 heure après la fin de l'épreuve, là, température commence à diminuer, on est moins en hypercatabolisme. Il faut essayer d'accompagner, voire de stimuler les processus de récupération, c'est-à-dire l'inverse du catabolisme, c'est l'anabolisme, c'est-à-dire la réparation des tissus, la fabrication de nouveaux tissus musculaires. Donc là, un apport de protéines. vraies protéines peut être intéressant parce qu'elles vont être brûlées. Donc là, à partir d'une heure, 1 heure et demie, ça peut être intéressant. Donc là, ça peut être un milkshake de récupération, ça peut être une boisson lactée, quelque chose comme ça. Ou alors une barre hyperprotéinée, ou alors pour faire simple, une tranche de jambon, un œuf, voilà, des choses comme ça, hein, si on est en déplacement. Ensuite, il y a le repas qui va suivre, où là, il faut avoir plutôt une alimentation alcaline, puisque l'organisme, après un effort, il est acide. Il y a beaucoup d'acidité. Donc, il faut neutraliser cette acidité. Et pour ça, il faut utiliser des aliments qui sont vecteurs de minéraux basiques. Donc, les minéraux basiques, c'est le potassium, le sodium, le calcium et le magnésium. Donc, on va trouver tout ça dans quoi? Dans les légumes doux. Dans les fruits doux, on va trouver ça dans les produits laitiers, d'olive. Voilà, donc tout ça c'est des aliments alcalins. Voilà. Tu trouves ça aussi dans les fruits secs oléagineux, les amandes, hein, les noisettes. Donc c'est ce qu'il faut privilégier. Et puis on va aussi utiliser des viandes blanches, des poissons, des choses comme ça, ou des préparations ovo-lactées, par exemple des quiches. Voilà. Donc des viandes plutôt maigres.
Donc ça c'est l'aperçu pour soit une course de 10 km, semi-marathon, marathon.
Voilà. Alors, bon, c'est sûr que pour le 10 km,
Ouais, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de réel, spécifique parce que...
ça dépend de l'intensité. C'est vrai que sur un 10 km sur lequel on a vraiment abîmé le muscle, on va surtout insister sur les protéines. Par contre, la recharge énergétique en termes de féculents, sucres lents, va peut-être être moins intense puisqu'on a quand même dépensé moins de glycogène. Mais on va insister, par exemple sur le marathon, là, on va insister sur les rations de féculents. Ouais. Alors plutôt que de les prendre en une fois, on va justement échelonner les prises à la fois 30 minutes, 1 heure, et puis sur le repas, voire même un peu plus tard. Voilà. Il faut échelonner les prises plutôt que de les prendre dans un seul et même repas. J'ai oublié en termes de boissons, des boissons gazeuses bien sûr, hein, riches en bicarbonate, l'eau de Vichy, ça va de soi.
D'accord. Donc, avec tout ça, logiquement, on peut bien récupérer de l'effort que l'on vient d'effectuer.
Tout à fait, tout à fait.
Ok, merci pour cette interview. Merci pour tous tes conseils une nouvelle fois. Donc, vous
Bah,
pouvez
avec plaisir.
retrouver hein, David donc soit sur neoconsulte.com.
Tout à fait, www.nutoconsulte.com.
Ok, voilà. Pas de souci. Ou également dans différents magazines comme Running, Attitude, etc. quoi.
Voilà, Running Coach, Cyclo Coach, voilà, il y a pas mal de magazines dans lesquels j'écris.
Ok, pas de souci. Merci une nouvelle fois et pour ma part, je te dis à bientôt.
À bientôt.
Si l'interview vous a plu, partagez-la sur Facebook et sur Twitter. Également, si vous écoutez cette interview par n'importe quel moyen sur Internet, donc je vous invite à taper dans Google blog courseapied.com et vous allez tomber directement sur moi. J'offre des chroniques de livres de course à pied, des interviews vidéo audio d'experts ou d'athlètes de course à pied, des vidéos de course à pied. Bref, un tas de choses qui peuvent vous aider et vous intéresser. Donc, je vous dis à très vite sur le blog. C'était Maxence Rigottier de blogcourseapied.com. À bientôt!